Les faits divers, ou autrement dit la rubrique des chiens écrasés. Ces papiers, ces articles dont les titres nous ont toutes et tous interpellés maintes et maintes fois. En voici paru aujourd'hui dans la Nouvelle République. Accident du travail, un employé gravement blessé à la jambe par un monte-charge. Et dans l'encart au-dessus, un motard tué à balles en Mairie en 2018, le demi-tour était bien en cause. Dans Ouest France, on lit aujourd'hui en Normandie, un homme se retrouve le pied bloqué sous un bus. Et on peut aussi remonter dans le temps de quelques mois ou de quelques années avec le procès ans, l'affaire du petit Émile ou encore celle de Xavier Dupont de Ligonnès, des affaires qui cette fois-ci ont quitté les pages de dernière file pour remplir les unes. À titre d'exemple, choisie minutieusement d'ailleurs, la une de l'Humanité du 19 décembre dernier qui titrait « Procès Pellicot, merci madame ». Mais revenons donc sur la question suivante, un fait divers, c'est quoi? Eh bien je laisserai les professionnels vous répondre, mais avant je me dévoue tout de même à vous citer quelques définitions trouvées ici et là. Selon l'encyclo Universalis, un fait divers est un événement d'importance secondaire et la rubrique de journal traitant de ces événements. Daniel Salle, dans son texte « L'irrésistible attraction du fait divers » publié sur le site Presse à la Une, une expo virtuelle réalisée en 2012 en partenariat avec le Clémy et l'AFP, désolé c'est long, mais ici on cite ses sources, ajoute que ce terme apparu au début du 19e siècle, et oui ça date, désigne les inclassables de l'information et carrément que c'est tout ce qui n'a pas trouvé place dans les rubriques habituelles, en gros la poubelle. L'auteur s'appuie aussi sur la définition de Roland Barthes, beaucoup plus sensas d'ailleurs, pour le célèbre critique littéraire et sémiologue. Le fait divers, en dépit de son aspect futile et souvent extravagant, porte sur des problèmes fondamentaux, permanents et universels, la vie, la mort, l'amour, la haine, la nature humaine, la destinée. En d'autres termes, le fait divers est assez révélateur de notre humanité et de ses facettes. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de lui trouver la juste rubrique. Bref, on commence à situer l'idée. Et on se rend compte que c'est assez large et qu'il y a beaucoup à dire. La preuve, les assises du journalisme de cette année sont sur le sujet. Mais alors pourquoi autant d'intérêt? Pourquoi on en parle autant de ces sujets abandonnés en dernière page? Souvent trash, arborant un titre vendeur et parfois mal tourné, qu'on se surprend souvent à rire devant le papier. Mais alors pourquoi tant de fascination? Cette fascination parfois morbide, voyeuriste. Et chers auditeuristes, vous ne pouvez pas dire le contraire, car ces exemples cités il y a un instant, vous les connaissez, vous avez peut-être même regardé volontairement des dizaines de documentaires sur ces affaires, popcorn en main. Et attention mesdames, messieurs, Ouest France, France Média Monde, France Télévisions et Radio France confirment mon propos avec un sondage via Voice effectué en vue des assises du journalisme qui annonce que 69% des Français se disent intéressés par les faits divers. Je cite d'ailleurs toutes ces rédactions, bien connues de toutes et tous, qui ont en leur sein les pièces maîtresses de ces faits divers. Car oui, on a parlé des sujets et de ceux et celles qui en sont intéressés, mais pour connaître et être intéressé ou non par un sujet, il faut s'informer sur ce dernier. Et qui informe? Qui les écrit ces fameux titres? Qui les raconte? Les faits diversiers, dans le jargon, les localiers et bien d'autres, les journalistes. Mais alors comment faire pour en parler de ces sujets parfois trash, intimes, pour respecter les victimes et leurs proches par exemple, ne pas être insultant car oui, il y a des limites, une éthique si importante d'ailleurs dans cette profession, la déontologie journalistique. Eh bien le traitement de ces fameux et uniques faits divers est encadré comme tant d'autres pans du journalisme et de là, chères auditeurices, invités et journalistes, mes compétences de simple chroniqueuse lâchent l'affaire et préfèrent laisser place aux professionnels.
Merci à Manon pour cet éclairage sur les faits divers qui intéressent de plus en plus de monde et qui du coup soulèvent de plus en plus d'enjeux. Mais on passe tout de suite à l'interview de Ella de Radio Campus Grenoble et de Marius de Radio Campus Toulouse. À vous la main.
Donc, bonjour à vous deux. On va rebondir directement sur l'introduction de Manon en vous demandant qu'est-ce que vous définiriez comme étant un fait divers. Pour vous, qu'est-ce qu'un fait divers ?
Compliqué.
C'est dur de passer
ouais,
après.
Ouais, compliqué. En fait. Ouais, effectivement, après cette chronique, c'est difficile en fait parce que moi je peux te donner ma définition telle que je l'ai perçue dans mes 6 années d'expérience en presse quotidienne régionale. Hein, c'est pas la définition que tu m'as donnée. La manière dont on traite le fait divers aujourd'hui, on est quand même beaucoup sur les affaires de police, justice. C'est aujourd'hui les affaires que l'on retrouve dans les pages dédiées au fait divers. Je dis, le fait divers peut être certainement quelque chose de plus large. Moi, la définition du fait divers, pour moi, je n'aimerais pas en fait me contenter de ce que j'ai eu l'habitude de faire en presse quotidienne régionale par rapport à cela. J'aimerais que le fait divers ce soit justement l'élément qui permette de mettre en lumière des problématiques concrètes de la société et de les traiter en profondeur à l'instar un peu de ce que les féminicides ont pu raconter sur toute la notion de patriarcat qu'on a pu voir et constater avec les mouvements MeToo, par exemple. J'aimerais que le fait divers, dans son ensemble, c'est-à-dire pas uniquement sur la question du féminicide, mais bien d'autres choses, puisse raconter plus largement les problématiques de la société et que l'on puisse s'en emparer sur des papiers plus en profondeur. Ça se fait dans certains médias, de mon point de vue, peut-être pas assez.
D'accord. Voilà. Yann, quelque chose peut-être sur la question de la définition ?
Je pense qu'effectivement, dans le fait divers, il y a la définition de la chose, c'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas dans les autres pages. C'est ça, à l'origine, pourquoi on parle de fait divers, c'est ça. Aujourd'hui, c'est vrai que pour les journalistes, on parle aussi beaucoup de journalistes police-justice ou de rubrique police-justice. Peut-être que c'est un petit peu plus noble et un peu plus reconnu que fait diversier ou spécialiste des faits divers. Il y a toujours un peu connoté chien écrasé. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que derrière les faits divers, il y a souvent des faits de société. Et la question des féminicides est intéressante. Comme moi, quand j'ai commencé à faire du journalisme vers les années 2000, quand une femme était tuée par son conjoint, on parlait de crime passionnel. On disait, on avait l'impression que c'était quelque chose qui était inévitable finalement, et qui n'avait pas vraiment, à part le rapporter dans la rubrique faits divers et faire le compte rendu du procès derrière, on ne le rattachait pas à un phénomène de société plus large. Et puis au fil des années, on a commencé ne serait-ce qu'à les compter et à dire y a tant de femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint cette année, c'est un peu plus qu'avant, un peu moins qu'avant. Et puis on peut regarder ce qui se passe dans les autres pays, et puis on découvre qu'en Espagne, y en a un peu moins. Et tout d'un coup, le fait divers, on sort de la rubrique fait divers pour rentrer vraiment dans la rubrique société, ça devient quelque chose qu'on peut quantifier, qualifier, et surtout quelque chose contre lequel on peut se battre, ou en tout cas s'activer.
Si on résume ce que vous dites, donc finalement un fait divers, c'est un cas à l'origine isolé, et souvent on peut le rassembler avec des phénomènes plus larges et plus globaux.
Oui, c'est ce qui se passe tu donnais un exemple de fait divers du jour, un accident du travail. Aujourd'hui, il y a de nouveau, il y a un peu cette même démarche sur les accidents du travail en disant c'est peut-être pas normal que des gens meurent au travail, c'est peut-être pas forcément quelque chose d'aléatoire et d'inévitable. Donc là aussi, on peut commencer à les compter. On peut aussi se poser la question pourquoi les médias n'en parlent pas ou en parlent dans la rubrique fait divers, pourquoi c'est pas, ça n'apparaît pas dans d'autres pages ou d'autres sections plus noble, et à partir du moment où on en fait un fait de société, on le sort de la rubrique fait divers au sens strict du terme, ça devient quelque chose de politique aussi, sur lequel on peut se positionner et s'activer.
Oui, et donc questionner le fait divers et sa place dans les médias. Donc toi, Thomas, tu as été au cœur de ça en tant que localier. Donc concrètement, en quoi consistait ton travail de journaliste dans cette rubrique fait divers et comment se déroulait la production des papiers ?
Alors, le travail d'un localier sur le fait divers est très différent du travail d'un fait diversier, comme on l'appelle dans le jargon, sur le fait divers, puisque le fait diversier, par essence, ne va faire quasiment que ça, enfin en tout cas il va traiter vraiment sur la grande majorité de son temps cela. Quand vous êtes localier dans une petite agence, comme moi je l'ai vécu par exemple à Gien, à l'époque où j'ai travaillé dans le groupe Centre France, vous êtes souvent deux à gérer une agence locale en ruralité avec un territoire assez important, parfois vous êtes seul dans certaines agences. Vous avez dans votre ordinaire vos pages de local à faire tous les jours, donc ça veut dire sur l'actualité, le tout venant, et puis aller trouver un sujet majeur pour à chaque fois faire votre entrée de page dans votre journal du lendemain. Vous avez aussi les commandes de temps en temps de la rédaction en chef par rapport à d'autres papiers qui sortent du cadre de vos pages, c'est-à-dire qui ont une portée un peu plus départementale. Donc on va vous demander de faire un reportage spécifiquement là-dessus ou un sujet spécifique. Tout ça, ça prend déjà beaucoup de temps dans un planning, sachant que justement il faut avoir un plan B, un plan C parfois en prévision pour pouvoir continuer à remplir nos pages. Et le fait divers vient s'ajouter sur ce millefeuille, une nouvelle couche entre guillemets que l'on traite. Par exemple, si tu me demandes comment je le faisais concrètement, bah, admettons, j'ai un fait divers qui m'arrive en fin de journée à 19h, je reçois un appel, je vois passer sur les réseaux sociaux, j'ai un contact qui me fait signe qu'il y a un incendie dans telle entreprise, dans une commune, de la communauté de communes dans laquelle j'exerce, eh bien, c'est d'aller sur place, c'est d'aller prendre la photo, c'est d'aller discuter avec les personnes... alors, quand je dis les autorités, c'est plutôt pour le coup avec les pompiers qui sont plus à même de nous répondre sur la question. Souvent, quand on va interroger les autorités policières ou les gendarmes, on va nous renvoyer vers le parquet, le procureur. Donc c'est là-bas qu'on pourra avoir plus d'éléments lorsqu'il s'agit d'une affaire dans laquelle, par exemple, d'une affaire criminelle, d'une affaire de délit, de cambriolage ou autre. Vous rentrez ensuite... dans votre local, vous rédigez votre papier. Alors d'abord pour la version web, il faut être réactif, il faut être très rapide. Et si vous êtes en fin de journée, eh bien il faut également prévoir votre version sur le print dans un petit carton qu'on vous aura dessiné un petit peu à la va-vite sur la page des faits divers avant le bouclage de votre journal. Ça peut aussi arriver d'être appelé à 1h ou 2h du matin et vous vous déplacez à 1h ou 2h du matin dans ce cas-là parce que dans une locale vous avez un téléphone de faits divers, une permanence tournante sur laquelle on peut être en lien avec comment dire, des services de secours qui peuvent nous donner une information sur un grand sur un événement particulier, c'est-à-dire un gros accident, pareil, un gros incendie. Donc à 1h, 2h du matin, j'étais amené aussi à me déplacer pour pareil aller prendre la photo et aller faire le contenu sur le web. Pas sur le print évidemment, puisque le bouclage s'était déjà passé, mais voilà, c'est un vrai travail de terrain. Oui. Un vrai travail de terrain, en même temps un vrai travail de terrain que l'on n'a pas forcément l'occasion de faire jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut être réactif dans un quotidien
pour le faire. Voilà. Temporalité.
Ouais, et puis souvent.
Peut-être pour continuer sur la discussion, Marius est là, vous avez peut-être d'autres questions parce que
ouais,
le temps
ouais,
file.
Ça varie aussi en fonction de la temporalité, un petit peu, c'est ce que vous disiez.
Donc, c'est ça, chaque média a sa façon de traiter le fait divers, et donc que ce soit du point de vue de la ligne éditoriale ou de la temporalité, de quelle manière différente ces médias ils peuvent s'emparer du fait divers?
Alors, est-ce que tu peux juste me préciser ta question? C'est-à-dire quand tu dis sur la temporalité, s'emparer du fait divers, c'est-à-dire
Que ce soit un média qui soit mensuel, hebdomadaire ou quotidien, ça ne va pas être le même traitement.
C'est sûr, moi je peux te sortir que l'expérience du quotidien où c'était chaud à chaque fois, c'était chaud tout le temps, et donc il faut être réactif et tu ne peux pas laisser la place, entre guillemets, à un travail plus en profondeur et plus d'enquête. Le travail plus d'enquête peut éventuellement être fait par la suite, mais même en tant que localier, tu as du mal à trouver ce temps pour faire de l'enquête parce que tu as tous les à côté de tes pages de local à faire. Dans le cadre d'une affaire criminelle qui remonte au tribunal, qui remontait par exemple au tribunal d'Orléans, pour le coup, je laissais la main aux faits diversiers qui avaient leurs propres sources à ces endroits.
Qui étaient spécialisés.
Voilà, et qui étaient spécialisés.
Sur cette question de temporalité, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que quand on va travailler à plus long terme pour un hebdomadaire, pour un mensuel, voire un trimestriel, on va pouvoir varier davantage des sources. Un des soucis de la pratique du fait divers en local, c'est qu'elle est très dépendante des services de police et des services de secours, avec le risque du coup d'être un peu trop proche de ces sources-là et de ne pas avoir le temps d'aller recueillir l'information auprès des concernés eux-mêmes et de creuser un petit peu pour aller au-delà de la version de la police.
Je confirme, je l'ai vécu cette frustration.
Voilà, ouais. Et pour le c'est pour ça que parfois on voit débarquer des confrères et des consoeurs de la presse nationale qui vont trouver que le fait divers est intéressant et eux vont creuser un peu plus parce qu'ils sont pas pris par l'urgence, ils ont quelques jours pour préparer leur histoire et là ils vont pouvoir aller voir la famille, ils vont pouvoir aller voir éventuellement les avocats, ils vont pouvoir remettre un peu tout ça dans le contexte et questionner, interroger la version qui a été reprise immédiatement parce qu'elle dépend beaucoup de la police et de la justice.
Justement, Yann Guégan, donc, tu es vice-président du CDJM. Dernièrement, donc, le CDJM a réagi au meurtre de Louise, 11 ans, disparue le 7 février dernier dans l'Essonne. Et donc, vous avez condamné plusieurs articles de presse qui ont cité le nom et l'origine supposée d'une personne interrogée. Un choix éditorial donc, qui est contraire aux chartes déontologiques, ce que vous estimez donc... dans le CDJM, dans l'article qui a été publié. Comment vous définissez donc la déontologie journalistique et comment vous la défendez au sein du CDJM ?
Alors, le travail qu'on fait au CDJM, il se base sur des chartes de déontologie. On a trois qui nous servent de référence. Ces chartes donnent des grands principes. Mais ensuite, il faut être capable de confronter ces principes à la réalité du métier et de voir comment ça se traduit concrètement. Donc on le fait parfois via des communiqués comme celui que tu viens de citer, on le fait via des avis qui sont publiés quand on est saisi sur un acte journalistique précis. On va prendre position sur cet acte et on va dire si, selon nous, les règles de la déontologie ont été respectées ou non. Donc c'est vraiment au cas par cas, de façon très, très pratique et très directe. Et puis, on a aussi des petits guides, des recommandations, comme celle qu'on a publiée, qui s'appelle « Traitement du fait divers, préconisation ». Et dans ce guide, on va poser la question de l'identité, de la communication de l'identité des victimes ou pas.
Finalement, il y a des limites à ce qu'on peut dire.
Exactement. Alors, il y a des limites légales. Sur l'identification, il y a des limites légales. On ne peut pas, en France, donner l'identité des mineurs qui sont impliqués dans une affaire judiciaire, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant que victime. Donc ça, c'est une des limites légales. L'autre, c'est les personnes qui sont victimes d'agressions ou d'atteintes sexuelles, où là, on ne peut en parler, on peut donner leur identité que si elles ont donné leur accord au préalable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à part ces deux cas-là qui sont dans la loi, tout le reste va dépendre des choix qui sont faits par les journaux. Et on a dans notre petit guide, bon c'est pas très long, hein, ça fait quelques pages, mais enfin sur l'identité il y a quand même beaucoup de critères à prendre en compte et beaucoup de prudence aussi à avoir. Donc quand il y a une course à l'info et qu'on a des médias qui vont balancer le nom de quelqu'un qui n'est qu'un suspect à ce moment-là, alors parfois c'est juste prénom et initial du nom, mais parfois on a vu prénom plus nom. Et ça, on sait que parfois ça peut rester sur Internet, ça peut être archivé et conservé, ça peut hanter la vie de la personne, surtout quand derrière elle est innocentée ou la police
d'autant plus
cherche un autre suspect.
Avec Internet et les réseaux sociaux.
Exactement. Donc il y a une question de responsabilité qui est importante, c'est pour ça qu'on a réagi en disant bah, attendez, n'oubliez pas quand même que le journalisme s'exerce dans un cadre qui est celui de la déontologie et sur l'identité des victimes, c'est une question sensible, l'identité des victimes ou des auteurs présumés, c'est une question sensible sur laquelle les médias se doivent d'avoir des règles, c'est le cas très souvent en PQR, il y a des chartes, voilà, où il y a un encadrement, il y a des règles qu'on s'implique en interne. Et du coup, il faut avoir cette réflexion-là. On peut pas se. Moi, j'aime pas le journalisme de la terre brûlée. J'aime pas le journalisme qui déboule sur un sujet, considère qu'on peut tout dire, tout faire, et puis ensuite qui repart pour parler d'autre chose, et derrière, il y a des vies qui sont affectées.
Oui, donc il y a cette question de l'identité, que ce soit des victimes, des auteurs d'infractions, tout ça, mais il y a aussi la question des territoires qui se posent parce que, Roland Barthes, il le disait, le fait divers, il peut être considéré comme le fourre-tout de l'information. Et donc, ces faits divers, ils permettent parfois de combler les dernières pages d'un journal, etc. À tel point que parfois, les noms de certaines villes peuvent être rattachés à certains faits qui s'y sont passés. Exactement. Ou bien, ça peut être aussi une vision plus péjorative de ce territoire. Donc en quoi le fait divers, il peut créer justement des stéréotypes locaux sur des territoires précis pour vous ?
J'ai l'impression que tu as un peu répondu à la question, hein, quelque part. Et là, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui sort aussi un petit peu de notre champ de compétences, parce que j'ai envie de dire, si il y a l'affaire des viols de Mazan, c'est pas de ma faute si ça s'est passé à Mazan. On est bien obligé de rappeler quand même, c'est le fameux 5W hein, quand on fait un sujet. Et dans les 5W, il y a le « où ». Donc on est un peu obligé de répondre à la question du « où ». Je ne sais pas après dans quelle proportion, moi, en tant que journaliste, je peux empêcher... c'est un peu comme l'histoire de Vichy, par exemple. Le gouvernement de Vichy, moi, pour avoir été étudiant en journalisme là-bas, je sais que le maire, qui est toujours présent... Monsieur Aguilera, refuse de parler du gouvernement de Vichy et veut qu'on l'appelle le régime de l'État français, par exemple.
Bonne chance.
Mais voilà, bonne chance.
Est-ce que peut-être vous avez une dernière question en très très bref à poser?
C'était un petit peu, alors je relancerai sur cette question, est-ce qu'il y a un risque finalement, parce que les viols de Mazan, évidemment qu'il faut en parler, je pense que ça fait l'unanimité, mais est-ce qu'il y a un risque dans le traitement d'une information locale qui viendrait être traitée simplement parce qu'elle permet de combler un trou dans un journal et donc venir stéréotyper, renforcer un stigmate local.
Là aussi, les chartes sont intéressantes, notamment la charte de la Fédération internationale des journalistes, puisqu'elle invite les journalistes à ne pas favoriser les amalgames ou les préjugés et à être prudent là-dessus. Donc ça peut concerner l'origine ethnique des auteurs ou des auteurs présumés de délits ou de crimes. Ça peut poser un problème si vous. Ça peut poser un problème. Ça pose un problème si vous mentionnez l'origine ethnique d'un délinquant ou d'un délinquant présumé uniquement s'il est arabe ou s'il est noir. C'est-à-dire si vous ne le faites pas, s'il s'agit d'un blanc, par exemple. Hein. C'est tout bête, mais si vous faites ça chaque jour, chaque
oui,
semaine dans votre canard,
et...
voilà. En revanche, si vous êtes dans une enquête ou dans un travail au long, vous allez vous intéresser à la personnalité de la victime ou de l'auteur, et donc vous allez intéresser à son parcours personnel, à sa famille et à son origine, bon là effectivement la question de la couleur de sa peau peut être une information qui peut être intéressante. Vous voyez, ça peut être subtil et c'est pour ça qu'il faut aussi revenir des fois aux chartes et à se dire là je vais pas le mettre, je vais pas dire que la couleur de la peau de cette personne parce que c'est pas une information intéressante et je le ferai pas s'il s'agissait d'un blanc.
Et c'est un très beau mot de conclusion pour cette interview de revenir justement aux chartes, à leur importance surtout pour le journalisme de faits divers. Donc merci à Yann Guégan et à Thomas Deray pour leur interview.
Je rappelle juste qu'il y a une charte de Centre-France qui a été faite en 2020 justement sur les faits divers et qu'elle est lisible en ligne aussi pour